L'Église de Dieu restaurée. Quelque chose que nous n'avons jamais vu non prophétique. Donné par Monsieur David Pack. Comme il n'y a plus de prophétie, je peux me lever. Je voudrais apporter des clarifications sur l'annonce du 20e anniversaire que certains d'entre vous pensent être aujourd'hui. C'était plutôt hier, le 20e anniversaire était hier. C'est donc trop tard pour cela, mais je voudrais tous vous remercier d'être venus assister au 11e anniversaire de mon mariage avec ma femme aujourd'hui. Alors nous aurons donc du champagne pour cette occasion et l'année prochaine, nous essaierons d'être plus ponctuels pour le 20e anniversaire. Non, nous ferons les deux. C'est toujours bien, quand votre épouse est assise là, de dire que vous ferez les deux. Je vais commencer par une brève conclusion de la partie 173. Puis, ensuite, j'aborderai un sujet différent. Après 3 ans et demi sans l'avoir fait, je suis curieux de voir si je peux le faire. Mais il y a plusieurs choses qui seraient utiles d'expliquer. Tout d'abord, je voudrais peut-être dire que, si vous tenez compte de l'époque dans laquelle nous vivons, une confrontation se déroule actuellement entre les Israéliens et le Hamas à Gaza. 200 roquettes ont été tirées, beaucoup de personnes blessées. Nous verrons combien personnes sont mortes. Et ceci est à la une du rapport du Rudge. Et je suis sûr que vous avez remarqué que les Nord-Coréens tiraient à nouveau des roquettes. Et les problèmes continuent. Je n'ai certainement pas et ne voudrais pas et ne peux pas imaginer m'éloigner de la conviction que le retour du Christ est pour bientôt. Mais je n'ai pas vraiment l'intention de m'avancer dans le timing. Je voudrais d'abord aborder quelque chose d'intéressant avant d'entrer dans un sermon régulier. Alors peut-être que nous allons prendre 20 ou 30 minutes et conclure sur un ensemble de choses. Sous votre siège se trouve un document. Si vous voulez tendre la main et l'obtenir. J'ai montré un semblable au ministre et ils ont tous dit qu'ils l'appréciaient beaucoup. C'était utile. Alors, je l'ai affiné et perfectionné un peu plus. Et cela vous aidera à garder les itérations droites. Cela est plus proche d'une chronologie écrite. Cela vous dit tout. Si vous vous souvenez juste de Matthieu, Marc et Luc et que vous avez votre ligne de temps linéaire avec les couleurs, bleu et rouge, voici l'écrit qui est plus en colonne, si vous voulez. Examinons un verset que nous ne regardons jamais, mais ce serait un bon moment pour le faire. C'est, passez à Luc 19. C'est au-dessus de votre document, vous pouvez donc le lire, je vais passer à Luc 19, et nous allons en apprendre un peu. Comme il s'approchait de Jérusalem et au verset 41, je suis désolé. Laissez-moi juste être sûr, au verset 41, comme il approchait, je suppose que le document reprend au verset 41. Je ne pense pas que j'ai vraiment besoin d'en dire plus. Alors peut-être avez-vous besoin ou non d'ouvrir votre Bible. Mais le document commence par parler de ce qui arrivera à Jérusalem juste avant la venue du Père. Et vous voyez cela. Nous pouvons tout simplement le lire. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, et dit, « Si toi aussi, tu connaissais, maintenant, il parle à Jérusalem. » Dans Matthieu 23, il dit tout simplement, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants ?» Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Marc a un compte-rendu un peu différent. Luc a celui-ci. Il est venu en ville et il pleura sur elle. Il parle donc à la ville entière et des centaines de milliers de personnes. Si vous aviez su, même vous, en tant que ville, au moins dans cette journée, en ce moment. Parce que c'était le jour de Jérusalem. Leur sauveur, Dieu lui-même, pas le Père, mais Christ, était venu à Jérusalem. Et les choses qui appartiennent à ta paix, si seulement vous pouviez savoir ce qui est prévu pour vous, y compris la nouvelle Jérusalem et toutes les autres choses qui l'ont précédée, qui sont ponctuées de punitions. Mais si vous pouviez connaître votre fin ultime, mais maintenant, elles sont cachées à vos yeux. Son ministère est terminé. Christ est plusieurs jours avant qu'il ne soit crucifié. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts. Luc dit que Jérusalem est entourée d'armées, quelques chapitres plus tard. Et te cerneront de toutes parts, c'est le siège qui est décrit à divers endroits dans Esaïe et, à Zacharie ainsi de suite. Et ils vous détruiront, il ne restera plus rien. Il y a une abomination, y compris des armées, qui vont entrer désolées Jérusalem. Nous ne parlons jamais réellement de ce verset. C'est la Jérusalem reconstruite, après avoir été brûlée des années auparavant, qui va absolument être posée à plat sur le sol. Allez lire Esaïe 29, du verset 1 à 6. Et vos enfants en vous? Cela va être terrible pour les gens qui sont dans ce siège. Ils ne laisseront pas en toi une pierre sur une autre, rien, pas seulement une pierre du temple, la ville entière va être détruite. Vous savez, briques et mortiers, chaque bâtiment nivelé, désolé, dans ce siège. Dieu décrit Juda comme ayant littéralement le visage dans la poussière, au début de Esaïe 29. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas le moment de votre visite par Christ à cette époque. Ils ne savaient pas leur jour spécial quand il était là, et ils ont continué et, bien sûr, l'ont tué. Et ensuite, il entra dans le temple et commença à chasser ceux qui vendaient, ceux qui achetaient, et vous pouvez épouser les différents récits de l'évangile. Mais j'ai décidé de mettre Matthieu 24, puis 25, puis Marc 13 et Luc 21, de sorte que vous puissiez voir la septième et la huitième tête et leur complémentarité parfaite. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver ici, mais c'est très facile à comprendre maintenant. J'ai donc utilisé l'approche biblique de Scofield. Nous avons toujours été encouragés à ne pas faire cela. Si vous avez une de ces Bibles qui contient un sous-titre, ce n'est pas une bonne chose à faire, mais c'est une sorte d'étude pour cette occasion, c'est très utile. Donc, voici la déclaration de Christ sur la configuration, juste un chapitre plus tard il s'agissait de Luc, mais c'est le récit de Matthieu, alors Luc a été d'une grande utilité en tant qu'introduction. Et Jésus sortit et partit du temple. Et ses disciples vinrent avec lui. Il voulait leur montrer les bâtiments du temple. Voici la déclaration de mise en place. Voyez-vous toutes ces choses-là, on ne laissera pas ici pierre sur pierre, qui ne doit être jetée. Bien sûr, parce que toute la ville allait être détruite. Pas une pierre à Jérusalem. Et nous n'avons jamais vraiment compris cela, et cela faisait longtemps que je n'avais pas lu Luc 19. Et puis, les disciples posent leur question, parce que Jérusalem est détruite à l'extrémité, à la fin du monde, avant que le Père n'arrive ici. Nous savons que la huitième tête joue un rôle important dans ce que nous avons appris par le passé dans Daniel 8. Donc, la question de configuration rend cela très facile à comprendre. Et les disciples s'approchèrent de lui en privé sur la montagne des Oliviers et demandèrent, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ? Lorsque Jérusalem se sera complètement détruite, même avec le sol. Un peu comme Jéricho aujourd'hui, ou Babylone aujourd'hui, juste et plat, disparu. Sodome et Gomorre, parti. C'est ce qui arrivera à Jérusalem avant que Dieu donne, apporte, et envoie, la nouvelle Jérusalem. C'était donc leur question et elle guide tout ce que vous lisez. Donc, le premier royaume de Dieu, itération, est ici. Cela vient en premier, mais Christ ne pouvait pas inclure cela sans trop révéler le plan de Dieu. Marc 13, verset 10 vous dit en quelque sorte que l'évangile est annoncé en premier. Mais il ne pouvait pas faire cela, c'est pourquoi l'Église n'a jamais compris que ce qui suit est constitué de deux têtes, entourées de trois versions du royaume, au lieu d'une tête antérieure au millénaire. Donc, en le présentant dans différentes couleurs, ici, il devient facile à comprendre. Vient ensuite la période de la septième tête romaine qui commence. Je suis certain de cela. Il n'y a aucun doute à ce sujet et nous reviendrons pour en parler un peu plus tard. Mais ensuite, la deuxième itération suit la fin. Maintenant, la fin, là, n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la Sainte Eléa, c'est le Telo. Pour les chrétiens qui sont dans le feu, sous le septième chef, le but est de les sauver. Marc le dit plus clairement. C'est la gloire. C'est la vie éternelle. C'est le paradis. C'est la fin du feu. Et c'est leur objectif. Vous devez donc comprendre à qui cela est écrit. Donc, ce témoignage continue jusqu'à la septième tête. L'évangile ne reste pas silencieux dans le monde, tout comme les deux témoins le continuent au cours de la huitième tête, Et juste comme Élie l'annonce tout de suite de la porte. Vient ensuite la deuxième itération, le royaume de Christ, ensuite. Encore une fois, Christ ne pouvait pas inclure cela sans révéler le plan complet de Dieu, alors il l'a simplement laissé de côté. Et ce qu'il fait, alors, en commençant la période de la huitième tête qui se trouve à Jérusalem, parce que Rome est détruite lorsque la septième tête est renversée. Le trône du diable et Rome sont détruites lorsque le second royaume arrive. C'est la raison pour laquelle la huitième tête est différente. Il ne fonctionne pas à partir de Rome. Il opère hors de Jérusalem et l'aplatit. Cela devient donc très facile à comprendre. Maintenant, il fait quelque chose qui devrait maintenant être très facile à comprendre, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, il coupe et dit, maintenant, que celui qui lit, qu'il exerce son esprit. Nous venons de sauter plus de 3 ans et demi du royaume de Dieu sous moi. En effet, Christ parle. Exercez l'esprit. Ce n'est pas seulement un flux continu après la fin, ce qui était gloire, le royaume de Christ, la vie éternelle et la résurrection de tout Israël au paradis et ainsi de suite. C'est pourquoi il l'a inséré là. Maintenant, dans le monde, où ils n'ont pas le Saint-Esprit, exercer leur esprit ne se ferait pas plus que sortir et faire du sport. Cela ne les aiderait pas. Mais finalement, lorsque Dieu voudrait que cela soit connu, l'exercice de l'esprit était parfaitement logique, car vous venez de vous éloigner de la septième tête du royaume de Dieu et d'atterrir dans le pire moment de trouble que le monde n'ait jamais connu, y compris la grande tribulation, qui est mentionnée ici. Et après cela, le troisième royaume, le millénaire, vient en dernier. Encore une fois, Christ ne pourrait pas inclure cela sans révéler le plan complet de Dieu. D'autres endroits le font. Mais la question était, parle-nous de cette époque où tout sera détruit. Quand ces bâtiments vont être détruits et que toute la ville est rasée jusqu'à la fondation. Alors, il a travaillé pour cela. Nous devrions croire qu'il a simplement répondu à la question qui lui avait été posée. Et comme cela se passe juste avant que le Père n'arrive ici, il l'a exposé comme il l'a fait. Alors, vous, une brève référence au royaume de Christ, faisant référence à la parousie, donc revenant à l'itération numéro 2. Et tournez la page, et je suis parti au chapitre 25, parce que c'est très utile. Christ revient. Maintenant, ceci est avant l'itération numéro 1, du verset 42 à 47. Les serviteurs diaboliques vivants qui ont dit à mon Seigneur de retarder sa venue, et de se saouler et de battre leurs collègues, sont immédiatement expulsés. J'ai beaucoup appris sur la façon dont tout cela se joue, mais ce n'est tout simplement pas là où nous allons aller aujourd'hui ou peut-être dans un proche avenir et ou peut-être pas. Et puis le royaume arrive, première itération, j'en ai appris plus à ce sujet, et cela se termine avec ne soyez pas pris de court. Surveillez Christ. Et puis un jugement, le premier jugement, est établi depuis le début avec des serviteurs au cours des 2000 dernières années. Puis, après un long moment, verset 19, Christ vient et voici le premier jugement pour ceux qui vont les premiers, qui obtiennent des terres et des maisons et le salut, leurs péchés sont effacés, ils sont faits dirigeants et obtiennent la joie du Seigneur. Et vous pouvez en quelque sorte voir tout cela. Certains sont enhardis. Et ensuite, il y aura des pleurs et des grincements de dents dans le verset 30, parce que des serviteurs non rentables vont être chassés du royaume et rester pendant plusieurs années. Et puis le royaume de Christ est établi, les brebis et les boucs, et le jugement de la deuxième itération. Un autre jugement est prévu pour ceux qui n'étaient pas prêts la première fois. Christ dans sa gloire, le voilà. Donc la fin de la page 2. Maintenant, vous pouvez aller voir Marc et c'est exactement pareil. Je viens de le poser de la même manière. Même instruction d'installation, question de configuration des mêmes disciples. La même première itération du royaume ici, la septième tête romaine commence, deuxième itération, période de la huitième tête commence, tous ces versets correspondent à d'autres endroits. Que celui qui l'y comprenne. Marc dit la même chose, exercez votre esprit. Nous avons juste sauté dessus, Cela ne servirait à rien pour les âges précédents, frère. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, Daniel n'était pas décelé. Ainsi, les premières personnes qui peuvent réellement exercer leur esprit pour comprendre le livre de Daniel, de manière correcte et productive, seraient les personnes qui le comprennent après que ce livre a été décelé. Nous pouvons donc voir les septième et huitième têtes. N'importe qui d'autre peut s'essayer au cœur, être rempli du Saint-Esprit et n'avoir aucune chance de s'exercer correctement son esprit à propos d'un livre fermé jusqu'à la fin où la connaissance serait augmentée, la révélation s'ouvrirait et de nombreux autres livres les épîtres générales, ou bien sûr, ces trois vues de la prophétie d'Olivier. Vous pouvez donc continuer, et chaque évangile ajoute un peu plus, rend l'image un peu plus claire. Enfin, tu viens à Luc à la dernière page, le voilà de nouveau. Chaque fois commence par la destruction totale de Jérusalem en le soulignant juste. Voici ce que vous savez en quelque sorte. Il y a des pierres qui pèsent plus de 100 000 livres à la base du temple. Christ dit que toutes ces pierres colossales seront détruites, il n'en reste pas une seule qui ne le soit pas, alors vous saurez que toutes les briques de la ville vont disparaître. Alors, il ne fait que parler de ces pierres et de ces bâtiments géants, sans oublier les que les Romains l'ont renversé en 69 et 70. La fondation a toujours été là. Je l'ai parcouru à tous les coins, sous, autour et à côté, toute la plateforme supérieure, 27 acres. J'ai étudié ces pierres et vous pouvez les voir en ligne. Mais si ceux-ci sont partis, vous pouvez être sûr que tous les autres le seraient aussi. En partie, simplement parce que Christ a dit qu'il le ferait. Jérusalem va être désolée. Donc, vous avez la déclaration de configuration, la question de configuration, et nous y revoilà, en descendant dans Luc, et puis cela revient à la venue initiale du Christ et décrit, en réalité, l'arrivée des pousses sur des arbres que nous voyons en ce moment. Donc tout en bas, maintenant que je comprends bien tout cela, j'ai ajouté beaucoup plus de versets qui vous aideront, de sorte que vous pouvez compléter ce que vous étudiez ici avec. Et vous allez comprendre la septième tête et le feu. Vous saurez ce que vous voulez échapper. Et si nous avons plus de temps et que vous avez étudié tous ces versets, ils vous motiveront et voudront bien vous inciter à vouloir échapper à ce qui se passera à l'époque de la septième tête. La septième tête, et je le résume ainsi, que beaucoup de frères auront choisi de supporter, car ils auraient pu s'échapper, est vraiment terrible. Voici d'autres versets décrivant l'image plus complète à côté de ce document. Habacuc chapitre 1 et 2. Le chapitre 1 parle des catholiques. Le chapitre 2 parle de l'antéchrist, de l'homme du péché. Le psaume 83 vous parle de certaines nations impliquées lorsqu'elles déferlent à Jérusalem. L'Allemagne en tête du spectacle. Daniel 11, versets 13 à 19. Le premier empereur dont parle le psaume 83, qui entre et consume complètement Jérusalem sous la septième tête. Le chapitre se termine avec la huitième tête, mais ceci est la septième tête. Zacharie chapitre 5, versets 5 à 11 parle de cette femme dans une jarre et de deux autres femmes qui l'amènent et construisent un temple à Rome, la septième tête. Un grand temple sera construit à Rome, à Chinéa. Il ne sera pas construit à Jérusalem. Les sept premières têtes sont hors de Rome. Et cela m'a pris beaucoup de temps pour le comprendre. Qu'est-ce que, Shinéar signifie Babylone? Eh bien, c'est Rome, mais ils ne vont pas construire un temple à Rome, eh bien oui, ils sont la septième tête. Et donc, quand Dieu jettera la septième tête, il va détruire ce temple immense que le septième pape est la septième dernière venue du système, avant là, la huitième tête différente à Jérusalem, les dernières têtes construites à Rome. Il va tout détruire, y compris un temple géant qui va être construit. C'est intéressant, car cela remet en question, et nous y reviendrons dans un instant, combien de temps dure la septième tête. Et moi, je vais en quelque sorte fermer, je dirais, avec cela. Mais il y a un peu plus ici. Si vous regardez Zacharie 11, c'est l'homme de péché qui est mentionné. Matthieu chapitre 7. Versets 15 à 21, ce sont les arbres corrompus et les bons arbres, qui correspondent, vous le savez, au loup vorace, qui correspondent au loup cruel d'acte 20 que Paul a toujours mis en garde de façon constante, De sorte que le peuple de cette époque, qui devrait être de retour, bien sûr, pendant tout cela, ne serait pas obligé de passer par là. Et il le termine au verset 32. Je vous recommande la parole de Dieu qui peut vous édifier et vous protéger de tout cela. Vous voyez? C'est ce qu'il dit. Et encore une fois, Paul n'était pas un enfant. Peut-être a-t-il été vu, avait-il une vision de la septième tête, peut-être comme Daniel a-t-il vu la huitième tête. Et cela l'a mis en larmes pendant 3 ans. Et je ne peux pas le citer assez souvent. Et il ne pouvait parler d'autre chose où qu'il aille, du moins partiellement, jour et nuit, pendant 3 ans, à cause de ce que le peuple de Dieu allait subir sous la septième tête. Ils viennent à la gloire à la huitième tête, alors c'est un non-problème. Et bien évidemment, Thessaloniciens 2 discutent de l'homme du péché pendant les 12 premiers versets. Et les 7 épîtres générales vous disent des choses sur ses moqueurs et ses bêtes brutes naturelles, et ainsi de suite. J'espère donc que vous trouvez cela utile. Maintenant, voici quelques raisons pour lesquelles je crois que la septième tête, et j'espère vous motiver, parce que j'ai l'intention de mettre tout cela au lit. Y compris pour la grande partie de ce sermon. Mais je tiens à vous donner quelques raisons pour lesquelles la septième tête peut durer plus longtemps. Nous pourrions demander, combien de temps cela va durer? C'est peut-être plus long que nous le pensions. Je ne crois plus que ce soit 6 mois. Je pense que cela va probablement tripler et je vais vous donner plusieurs raisons. Mais cela pourrait être encore plus long que cela. Tout d'abord, laissez-moi vous donner peut-être 10 raisons. La première est que la septième tête doit avoir le temps de construire un temple immense. Ce n'est pas aussi long que la huitième tête, qui dure 3 ans et demi, mais nous ne devrions pas supposer que c'est seulement une demi-année. Une des raisons est qu'ils construisent un temple à Rome à la fin du premier tour. Maintenant peut-être qu'ils commencent à le construire alors que le royaume existe déjà en Israël. Je ne sais pas. Il est difficile de savoir quand la construction de ce temple commencera. Christ n'est pas personnellement concerné, pas dans la première itération du royaume, au-delà des frontières d'Israël. Il est donc difficile de savoir exactement combien de temps cela durera. Mais s'il s'agit d'une église très catholique, alors elle sera grande et extraordinaire, et quelque chose d'extraordinaire, probablement une aide surnaturelle du diable pour la construire. Par conséquent, il est difficile de savoir s'il s'agit d'un processus plus long ou plus court. Mais cela est une chose, en voici une autre. Les guerres et les troubles, dit Luc, commençons en premier. Il y a des troubles dans le monde, mais cela peut aussi être à l'extérieur du royaume d'Israël. Le monde commence à bouger, pour ainsi dire. La paix règne pendant le royaume de Dieu, sinon Israël ne sera jamais en paix. Mais ensuite, vous commencez par avoir des guerres et des troubles, donc il est probablement important de le savoir. Il est difficile de savoir si une partie de cette guerre est dirigée contre Israël ou non. Mais il est dit que cela commence en Luc chapitre 21, verset 9. Ensuite, un groupe de menteurs annonce celui qui devient l'antéchrist, en apparaissant le premier. Ils viennent en premier et disent que le temps approche. Il doit donc y avoir une période de temps où il travaille et il n'est même pas sur la scène. Ils apparaissent en premier. Une autre apostasie qui se produit sous eux. Nous nous sommes donc perdus, je le comprends, mais il y en a une autre apostasie qui arrive. Christ dit de ne pas aller après eux, mais beaucoup le feront. Beaucoup vont être trompés. Et beaucoup d'entre eux seront également des convertis du royaume. Il est difficile de savoir combien il y en aura dans l'Église. Bien alors, guerre, famine et peste, dites simplement famine et peste, différents évangiles utilisent des termes différents. J'ai déjà dit guerre et trouble. Mais viennent les famines et les pestes. Par définition, les famines prennent un certain temps. Maintenant, vous pouvez faire venir des sauterelles et créer une famine en un jour. Cela dépend de la façon dont cela fonctionne, mais, et il existe des preuves qu'il y a des famines causées par les insectes, Joël en raconte cette histoire, mais des famines typiques et des pestes dans divers endroits. La plupart des famines prennent du temps. Il y a des tremblements de terre, Mais ceci ne dure pas nécessairement longtemps, mais il y en a plus d'un. Il y en a une variété. Certains d'entre eux sont de grands tremblements de terre qui vont contribuer à la tourmente mondiale. Il y aura un roulement d'eau. Marc les appelait des ennuis. Et vous pouvez regarder les ennuis aujourd'hui, ils ne le font pas, ils prennent en quelque sorte du temps à construire. Vous savez, être livré à l'affliction, torturé, emprisonné, trahi par la famille, tout cela prend du temps. Habacuc chapitre 2, verset 6, les nations du monde entier, sous la septième tête se demandent combien de temps cela va durer. Ils détestent tous cet homme. Il est un voleur meurtrier. Habacuc 2 raconte qu'il est pervers. Ainsi, toutes les nations et les pays israélites sont également sous sa responsabilité et disent encore combien de temps? On dirait que cela dure un moment. C'est assez long aussi pour les frères, maintenant, en voici un autre. Pensez à 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4, c'est assez long pour les frères qui auraient pu être dans le sol pendant 1000 ans, puis sont revenus, et ils espèrent que cela sera fini, et ils commencent à demander où est la promesse de sa parousia. En d'autres termes, où est le royaume du Christ? Où est-ce? La création est la même. Je ne vois pas de paradis. Et ils commencent à se moquer. Est-ce vous vous moquez de 3 à 6 mois? C'est quand vous dites que cela dure trop longtemps. Et vous commencez les moqueries? Vous savez, la création reste la même. Où sont les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Ils pensent peut-être à cela, mais ils ne pensent probablement où est le paradis, car les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont plus éloignés. Cela dépend de ceux qui se moquent et de leur compréhension. Mais nous savons que le paradis arrive. Deux voleurs vont bientôt arriver et ils arrivent au paradis. Luc 18, verset 7, maintenant, quand vous comprenez la façon dont l'adversaire, l'ultime adversaire, avec lequel cette veuve va s'élever, se heurte, alors c'est Dieu qui tient longtemps avec eux, puis les répond vite. C'est tout, c'est la septième tête pour ceux qui ne s'échappent pas. Apocalypse 17, verset 10, voici un autre point. La septième tête va pour un court espace, et oligo, mais je pourrais vous emmener à divers versets, un oligo peut aller pendant un moment, pour le bon moment. Il y a différents exemples. Et voici plus, je pense, peut-être juste des points à méditer. Ce ne sont pas des preuves réelles. Mais si le royaume dure 3 ans et demi, la première itération, nous espérons tous pouvoir nous échapper, être sauvés et gouvernés, et vous y avez ajouté 1 an et demi, puis 7 ans au Père, alors, au lieu de 11 ans, tu en auras 12. J'en ai parlé à un moment donné. Tu as 12 ans. Et il y a deux raisons qui sont intéressantes. Le royaume de Dieu est la construction ultime. 12 est le nombre du commencement et le nombre de fondations. Cela ressemble plus au chiffre exact, si cela passe peut-être 1 an et demi sous la septième tête. Je suis en train de jeter cela là-bas pour examen. Où, il y a 12 apôtres, il y a 12 tribus, il y a 12 000 × 12 000 pour les 144 000. C'est un nombre très important dans la pensée de Dieu. Et ainsi, 12 ans, pour une raison, pourrait être plus applicable. Encore une fois, cela correspond au nombre de fondations. Le fondement de la grandeur du royaume, pour un millénaire à venir, semblerait convenir. 11 est un chiffre amusant, qui ne m'a jamais tout à fait convenu. Je pensais que 6 mois se seraient écoulés jusqu'à ce que j'apprenne l'existence de Matthieu, Marc, Luc, au début de la moitié des chapitres et de leur place. Une fois que j'ai compris cela et que je commençais à penser aux famines, aux guerres plus longues et à la peste, cela pouvait prendre un certain temps et quelques-unes des choses que j'avais déjà décrites, j'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait rien assumer. En outre, si la septième tête durait 1 an et demi, toute la période du Nouveau Testament serait, depuis la construction de son Église par Christ jusqu'à l'arrivée du Père, exactement 2000 ans. À partir de l'an 31 AD jusqu'en 2031, si c'était cette année. Et vous ne pouvez pas me donner envie de croire que ce n'est pas cette année, mais vous comprenez, nous pourrions aborder toutes sortes de choses sur Habib et je ne reviendrai pas là-dessus. Je me suis rendu compte profondément que nous ne connaissons pas le moment. Mais je peux lire, Je peux lire les nouvelles et regarder la télévision, et je peux comprendre que notre pays se désagrège. Il y a d'énormes problèmes au Venezuela et ils ne s'améliorent jamais. Rien ne s'améliore jamais. Cuba, Iran, Chine, Nord-Coréen. Bien sûr, cette chose en Israël aujourd'hui. Et ainsi de suite, je le dis, je l'espère, frères, nous veillons tous. Ne vous endormez pas, car cela n'est pas arrivé quand on le voulait ou quand on veut. Je suis déçu. J'aurais aimé que ce soit arrivé à la mi-mars pendant la montre, mais ce ne l'a pas été. Et après 53 ans, je vous comprends, je veillerai jusqu'à la fin. C'est juste que personne ne pourrait me convaincre que ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore le cas cette année. Cela a peut-être quelque chose à voir avec la deuxième Pâque, ou peut-être la Pentecôte est impliquée d'une manière ou d'une autre. Mais s'ils sont, je ne connais pas le jour et je ne spéculerai plus jamais. Mais moi, si je suis ici dans un an, alors nous sommes ici dans un an. Mais à certains égards, je me demande, vous ne connaissez tout simplement pas l'heure, la période. Vous pouvez dire, eh bien, vous savez, le royaume de Christ commence en avril et celui du Père, le premier ne serait-il pas inauguré en avril? Et la réponse est que le Père pourra conclure que nous verrions 130 grandes choses qui se sont passées à Habib, puis il pourrait dire, il penserait cela. C'est ce qu'il penserait, mais il ne connaissait pas l'heure. Donc je ne vais pas faire cela. Peut-être qu'il le ferait. Nous sommes toujours à Habib. Mais de toute façon, je pourrais le faire, on peut juste tourner en rond. Le fait est que nous continuons à veiller. Maintenant, il n'y avait pas beaucoup de questions qui ont été posées. Deux questions très simples, mais j'ai dit que j'y répondrai avant de passer à une autre chose, je pense, vraiment un sujet fascinant que je vais vous montrer qui est loin de la prophétie. Bien que ce soit le cas, si vous le comprenez, ce sera une énorme clé pour savoir si vous vous échapperez, à cet égard. Mais une question, les Écritures soulignent-elles ce qui se passe après la destruction de la terre? Eh bien, la croissance du gouvernement de Dieu, cela ne finit jamais. Je le sais. Vous savez, l'œil n'a pas vu ni entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Donc, en fin de compte, vous devez également vous en remettre à cela. Mais ne serait-il pas intéressant que, si la terre disparaît, ce gouvernement continue à s'étendre dans un univers reconstruit où nous constatons que le millénium lui-même redevient une sorte de fondation? Pas seulement, dirons-nous, les 12 premières années, mais peut-être le millénium en lui-même. Nous pourrions dire 112 ans ou 1012 ans est la base de quelque chose d'encore plus spectaculaire. La sermonnette ne m'a pas échappé. Il y a tellement de choses merveilleuses et étonnantes que vous pouvez étudier dans cette vie. Ce que Dieu a fait et à quel point il est illimité, nous ne le savons tout simplement pas. Sa compréhension, dit la Bible, est infinie. Maintenant, cela signifie que cela ne s'arrête jamais. Je ne pouvais pas comprendre cela. Je sais que nous voyons quelques couleurs sur le spectre de la lumière. Il y en a beaucoup plus, mais je ne le vois pas. Je peux le comprendre, quand des gens qui le comprennent me le disent. Mais je ne peux pas vraiment comprendre à quel point ils vont au-delà de ce que les experts qui étudient ces choses peuvent savoir. Il est difficile de savoir ce qui attend les amoureux de Dieu. Les enfants adultes de nos frères sont-ils protégés? Et la réponse est que s'ils, vous savez, chaque baignoire va s'asseoir sur son propre fond. Ézéchiel 14. Versets 14 et 20, écrivez-le simplement, Dieu s'écarte de son chemin trois fois. En fait, il y a encore un verset, même si Noé, Daniel, Job étaient dans ces moments difficiles, ils ne sauveraient personne d'eux-mêmes. Ils ne sauveront ni fils ni filles. Donc, vos enfants sont totalement indépendants de vous. Techniquement, au moment où ils sont nés, Dieu assume la responsabilité ultime, et nous dirons, la responsabilité ultime pour eux, mais nous les avons dans un arrangement de veiller sur eux pour les 18 ou 20 premières années. Mais ils vont finir par devoir rester sur leur propre fond quand ils grandiront, peu importe qui les élève. J'espère donc que ceux-ci vous en donneront quelques-unes, certaines choses à considérer. Si vous avez plus de temps, couvrant un moyen crucial de vous assurer que vous vous échappez. Je n'en ai jamais parlé en tant que sujet particulier auparavant. En fait, je ne l'ai jamais bien compris comme je le fais maintenant. Nous allons donc passer au type de sermon que j'avais l'habitude de donner, juste après la guerre civile. Je me souviens, c'était après cela. J'ai dit que c'était après la guerre civile, alors, premièrement, avant de commencer ce sujet, le mot le plus utilisé et le plus mal utilisé en anglais doit être le mot amour. Ce n'est pas exactement le sujet du sermon, mais c'est en partie. Cela signifie tout ce dont quelqu'un a besoin pour accomplir son objectif ou pour moudre sa hache. Si vous êtes pour les droits des femmes, alors vous aimez les femmes. Et quelqu'un d'autre pourrait dire, eh bien, tu détestes les bébés. Vous savez, vous êtes pro-avortement. Tu détestes les bébés. Ce n'est pas ainsi qu'il le verrait. Si vous êtes contre l'avortement, vous détestez les femmes. Maintenant, vous dites, attendez une minute, et je l'avais déjà expliqué, attendez une minute. Ne puis-je ne pas aimer les bébés innocents qui n'ont pas vécu toute leur vie? Ça ne pourrait être que cela? Non. Vous détestez les femmes. Ou vous détestez la santé des femmes, ou quoi que soit ce qu'elles veulent dire. Tu es misogyne, parce que tu ne nous laisseras pas sortir les bébés de l'utérus et les exécuter. Mais nous ne pensons pas que c'est de la haine, c'est de l'amour pour la femme, et nous pensons que vous avez un esprit pervers si vous dites que vous aimez ces bébés, alors que nous savons vraiment que vous détestez les femmes. Écoutez-les. C'est exactement ce qu'ils disent. Ils doivent garder le focus sur les bébés, qui sont abattus comme de petits porcelets, de sorte qu'une femme ne subisse plus d'inconvénients. Et ils appellent cela la santé des femmes, comme si la grossesse était une maladie, alors l'amour est introduit de deux manières différentes. Tant que vous mettez l'amour entre guillemets. Que veut dire amour? Je parle d'amour pour les droits des femmes. En ce qui me concerne, les bébés sont des chiens. Dans ou hors de l'utérus maintenant. J'ai toujours pensé que nous arrivions à un point où nous pourrions avoir des gouverneurs, comme celui-ci, en Virginie, qui dit que vous faites sortir ce bébé de l'utérus et littéralement, comme l'a dit le président à Green Bay samedi soir dernier, puis le médecin et la mère peuvent avoir une discussion, et voici ses mots, sur la question de savoir s'ils doivent exécuter le bébé, parce que c'est un désagrément. Elle voulait juste un peu de sexe gratuit, pas cher. Tu sais, une nuit de plaisir. Vous savez, s'il s'agit d'un résultat intéressant, que vous étouffez ou que vous aspirez la cervelle avant qu'il ne soit complètement sorti du ventre de la matrice, eh bien, faisons-le. Homosexuel, la même chose. Maintenant, si vous êtes d'accord avec Dieu sur le fait que l'homosexualité ou le mariage homosexuel n'est pas bon pour la famille, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas vrai. La Bible le condamne, tu es anti-gay. Tu détestes les homosexuels? Non, je ne déteste pas les homosexuels, j'adore la parole de Dieu. Non. Tu détestes les gays. Tu es un bigot. Ils voient ce qu'on vous aimez vraiment Dieu. Maintenant, ils détestent Dieu ou ils suivraient sa parole. Mais l'amour peut être flexible. C'est celui qui parle, qui le définit. Quel est le but qu'ils essaient de réaliser? Transgenre, tu détestes les jeunes confus, si tu ne les laisses pas. Tant de, maintenant, cela fait assez longtemps maintenant qu'il y a des enfants de 10, 12, ou 15 ans à qui leurs parents ont permis, dont les enseignants les ont aidés, ont changé de sexe, ont grandi et ont dit, à quoi je pensais? La réponse est, à tort. Mais il est trop tard et ils sont désolés. Et il y a de plus en plus de cas de cela. Mais ces libéraux malades, tordus, détestant Dieu, détestant la vérité, détestant la morale, détestant le sens commun, qui dirige tant de choses dans notre société, pense que c'est de l'amour pour cet adolescent et que vous détestez alors, si vous n'exercez pas leurs droits, et que ces libéraux à la tête cassée et en échec veulent pouvoir les laisser faire. Tu vois? Alors l'amour est très, si vous voulez fermer les frontières, vous détestez les métis, tu les détestes au juste. Non, mais j'aime mon pays et je, pour avoir un pays, il faut avoir des frontières. Non. Tu détestes les métis. Et je les écoute. C'est tout ce qu'ils ont. Vous écoutez la gauche, toute position à droite est qualifiée de raciste, homophobe ou anti-islamique. Si vous ne voulez pas de musulmans dans le pays, qui peuvent faire beaucoup de mauvaises choses, franchement, vous êtes anti-islamique. Vous êtes islamophobe. Maintenant, mais attendez une minute, moi, c'était un pays chrétien et j'aimais en quelque sorte mon pays comme il l'a été pendant des centaines d'années. C'était un grand pays. Nous, du moins apparemment, cela pourrait être un baptiste qui parle, nous pourrions aussi dire, vous savez, nous savions qui était Dieu, dans la tradition judéo-chrétienne, et ensuite vous faites venir ces gens ici. Ils s'habillent différemment, ils envahissent les quartiers, ils menacent les gens, ils font sauter des choses. Peut-être devrions-nous simplement jeter un coup d'œil à cela. Non. Vous les détestez. Tu les détestes. Donc, l'amour et la haine sont des termes relatifs. Si vous ne voulez pas donner en retour, le gouvernement donne des programmes de dons, en utilisant l'argent des autres le socialisme, vous détestez les pauvres. Tu détestes les pauvres, vous voyez, vous pouvez les écouter. Amour et haine, l'amour a été dévalorisé pour signifier tout ce que vous voulez qu'il signifie. Bien sûr, l'amour entre un couple qui n'est pas marié, c'est vraiment de la convoitise, mais ils ne diront pas, vous savez, ils sont dans la convoitise. Ils diront qu'ils sont amoureux et ensuite ils forniquent, ou l'un d'eux est marié, ou les deux, puis c'est l'adultère. Mais regardons à nouveau un élément d'amour, que je n'ai jamais couvert en tant que tel. Retournez à Matthieu, chapitre 6. Matthieu 6, un tiers du chemin parcouru par le serment sur la montagne. Je n'ai jamais vraiment étudié cela comme nous le ferons aujourd'hui. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, il est question de prier, de jeûner et de faire les choses en secret, mais quand tu fais l'aumône, ne le laisse pas voir des hommes. C'est un terme intéressant. Si vous regardez dans la marge, quand vous faites votre justice, c'est un terme intéressant pour l'aumône. Si je vous demandais quelle est la définition de l'aumône, que diriez-vous? Pas les psaumes, mais les aumônes, et les messes, et les homocinés, en grec. Que diriez-vous que c'est? Diriez-vous que c'est mettre de l'argent dans un panier? Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, là encore, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. C'est un point. Eh bien, quatre fois, Christ mentionne l'aumône dans chacun des quatre versets. Il semblerait que vous allez être récompensé à travers les aumônes, nous devons donc savoir ce qu'ils sont ou ce que c'est. Quelles sont vos aumônes? C'est intéressant. Cela n'a rien à voir avec de l'argent. Cela n'a rien à voir avec donner de l'argent. Cela peut inclure cela, mais ce n'est pas la définition. La définition est votre compassion, telle qu'elle est exercée envers les pauvres. Votre bienfaisance, vous êtes un bienfaiteur, béné à la racine du mot « bien » ou bien une bienfaisance, un acte de bien pour une autre personne. L'hypothèse est que cela leur donne de l'argent. Ainsi, l'aumône n'a souvent rien à voir avec le fait de donner de l'argent aux gens. Cela peut être une aide ou une assistance à n'importe quel moment pour n'importe qui, à n'importe quel moment pour n'importe qui. C'est vraiment une déclaration, si vous y réfléchissez. Faites-le en privé, Dieu le verrait. Ce pourrait être un verre d'eau. Quelqu'un a vraiment soif, tu lui donnes un lingot d'or, mais il mourra de soif, cela ne les aidera pas beaucoup. Mais si vous leur donnez un verre d'eau, ou peut-être qu'ils ont besoin de vêtements, ils auront peut-être besoin d'aide pour élaguer un arbre dans leur jardin, ou pour nettoyer quelque chose, sortir de leur maison, faire un tour au magasin ou faire des courses, ou juste les avoir pour un repas. Il n'y a ni or ni argent impliqué. Il n'y a pas de trompette qui sonne lorsque vous déposez quelque chose dans leur boîte de conserve. Cela n'a rien à voir avec cela. C'est devenu la manière typique dont les gens voient cela. Mais vous devez rechercher le mot et arriver à le comprendre. Et cela va être plus grand dans un moment. Cela signifie à quel point vous êtes compatissant? Êtes-vous bienfaisant? Faites-vous périodiquement une bienfaisance aux gens? Luc 11, retournez là-bas à Luc 11, pendant que Jésus parlait, chapitre 11, verset 37. Un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra, et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit « Vous les pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Vous insensés. » C'est ce que tout le monde dirait lorsqu'ils sont invités à dîner chez quelqu'un, vous savez, mais si vous êtes Christ, vous pouvez le dire et faire valoir votre point de vue, tout en le consignant pour tous les temps. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas aussi fait l'intérieur? Mais donnez plutôt, ne vous inquiétez pas tellement à ce sujet, mais donnez plutôt des aumônes des choses que vous avez, il n'y a rien au sujet de l'argent dans ces propos, et, voici, toutes choses sont nettes pour vous. Vous donnez aux autres, et vous ne vous inquiétez pas de ce qui pourrait rester dans vos mains. Donnez l'aumône de ces choses autant que vous en avez. Certaines personnes n'en ont pas beaucoup. Je me souviens de l'histoire, et vous l'avez probablement entendue, mais je ne la raconte plus depuis de nombreuses années. Il y a peut-être 15 ans depuis que j'ai raconté cette histoire pour la dernière fois. Raymond Mckner, un frère de mon beau-frère, nous étions très amis. Il est décédé, il y a environ 11 ans, il y a 11 ans maintenant, mais il se rendait dans le sud avec un homme que je connaissais très bien, un autre ministre nommé Albert. Et M. Mckner était le ministre principal, M. Baird était un homme plus âgé, il quitta cette maison et cet homme est sorti en courant et a supplié, M. Baird, ces deux hommes étaient venus leur enseigner la vérité du collège d'Armstrong et il est sorti en courant et a supplié M. Baird de prendre cet œuf, prenez cet œuf. C'est tout, il voulait lui donner quelque chose, mais il n'avait qu'un seul œuf. Vous savez qu'il fait chaud et nous étions dans le sud. Si vous avez un œuf, vous allez devoir faire quelque chose avec cet œuf assez rapidement. Mais de toute façon, c'est une parenthèse, c'est une simple parenthèse. Vous n'aurez qu'à le casser sur le capot de la voiture et ensuite vous pourrez le manger. Je me souviens qu'une fois, lorsque j'étais enfant, nous allions casser un œuf sur le trottoir et le faire frire. Je l'ai fait quelques fois avec mon ami lors de journées chaudes dans le nord de l'Ohio. Mais de toute façon, M. Baird a répondu, « Non, je ne peux pas vous le prendre. Oh, s'il vous plaît, prenez mon œuf. Je veux vous donner quelque chose. » Il a répondu, « Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. » Et ils sont montés dans la voiture et M. Mckner s'est tourné vers lui et lui a dit, « Vous êtes un homme égoïste. » Et, avec un genre de demi-sourire, il a dit, « Vous êtes vraiment égoïste. Que voulez-vous dire? Est-ce parce que je n'ai pas pris l'œuf? Oui, eh bien, vous êtes incroyablement égoïste. » Et il a embelli un peu ses propos. Alors, comment cela pourrait-il être un acte égoïste? Il répondit, eh bien, vous lui avez refusé la bénédiction qui consiste à donner. Vous lui avez retiré cette bénédiction. Il voulait vous donner cet œuf. Vous auriez dû prendre l'œuf et, s'il se trouvait qu'il était pourri avant que nous puissions le manger, nous l'aurions jeté dans les bois ou tout ce que nous en aurions fait. Mais je n'ai jamais oublié cette histoire. C'est tout ce qu'il avait et je suis sûr que Dieu a récompensé cet homme. Je ne sais pas s'il a continué la marche chrétienne. Je pense qu'il a été ensuite baptisé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être le verrons-nous un jour. Mais j'ai entendu cette histoire plusieurs fois. Elle a été racontée à chaque étudiant de l'Ambassadeur Collège pendant deux ou trois générations. C'est une histoire merveilleuse. C'est tout ce qu'il possédait. Et par conséquent, si c'est tout ce que vous avez, dans ce cas-là, un œuf a même une bonne chose à offrir. Allons dans Actes, le chapitre 3. Actes, le chapitre 3. Que faites-vous pour les gens? Je vais expliquer un mystère que j'ai résolu, dans quelques autres versets sur ce sujet. Mais dans Actes, le chapitre 3, nous lirons au verset 1. Or Pierre et Jean montèrent ensemble dans la maison au temple à l'heure de la prière, soit à la neuvième heure. Et un certain homme boiteux depuis l'utérus de sa mère était porté, lequel il mettait chaque jour à la porte du temple, qui est appelée Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'était probablement une forme de demande d'argent. Qui voyant Pierre et Jean sur le point d'entrer dans le temple, leur demanda une aumône. Et Pierre, fixant ses yeux sur lui avec Jean, dit, « Regarde-nous. » Prouvant qu'il espérait probablement l'aumône typique, ce que la plupart des gens feraient lorsqu'ils étaient ainsi interpellés, et voici ce que Pierre lui donne comme réponse. Et il leur prêta attention s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Une fois de plus, c'est probablement ce à quoi il s'attendait, mais ce que j'ai je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth lève-toi et marche. Et il le prit par la main droite, et le leva, et immédiatement les os de ses pieds et de ses chevilles furent affermis. Et lui sautant se tint debout, et marcha, et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Diriez-vous que Pierre a donné quelque chose à cet homme et que Jean a donné, par exemple, l'aumône à cet homme? Je voudrais répondre par l'affirmatif. Mais cela n'avait rien à voir avec l'argent et l'or. Il est cependant vrai que nous ne pouvons pas demander à cet homme, mais je parierais que si vous lui demandiez, si nous vous donnons, chacun pour sa part, une brique d'or ou si nous vous guérissons, quelle option choisiriez-vous? L'un d'entre nous devrait-il douter de sa réponse? Je parie que si vous lui donnez Fort Knox, il dirait qu'il préférerait que vous le guérissiez. C'est l'un des récits les plus marquants de la Bible sur ce que sont les aumônes et peut-être ce qu'elles ne sont pas dans la plupart des cas. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Alors, tout à coup, le fait de donner à cet homme autre chose que de l'argent et de l'or n'a pas seulement suscité en lui une joie immense, mais tout le peuple le voyait. Et il savait que c'était lui qui était assis demandant l'aumône, à la belle porte du temple. Et il fut rempli de surprise et de stupéfaction de ce qui lui était arrivé. Notons cependant que si vous lui aviez donné de l'argent, d'un moment à un autre, cet argent aurait été déjà dépensé. Ce serait une autre portion d'une journée ordinaire pour cette personne près de la porte. Et comme l'homme boiteux, qui avait été guéri s'agrippa à Pierre et Jean, tout le peuple étant grandement surpris, accourut à eux au porche-chapelet de Salomon. Réfléchissez, dans ces conditions, au fait de ne pas donner de l'argent. Je ne dis pas de ne jamais aider quelqu'un en lui donnant de l'argent. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'essaie de vous faire réfléchir hors d'un certain cadre déjà établi, lorsque vous donnez l'aumône. Elle signifie compassion, une générosité, un acte de bienfaisance. Vous changez totalement la vie de cet homme. Nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous ne pouvons pas tous guérir les gens de nos jours, mais dans peu de temps, nous pourrons le faire. Ces actions auront plus de sens dans l'œuvre merveilleuse et un prodige, parce que vous le ferez tous. Allons dans Actes, le chapitre 10. Examinons, une fois de plus, la question de l'aumône. Et il y avait à César un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée la bande italienne, les Italiens, d'accord? Il y avait des Italiens sur la côte, un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait Dieu sans cesse. Ces versets ne nous disent pas vraiment ce qu'il faisait. Il vit clairement dans une vision vers la neuvième heure du jour un ange de Dieu venant à lui, et lui disant, « Corneille !» Et lorsqu'il le regarda, il eut peur, et dit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Remarquez ceci. Voici ce qu'il dit, c'est Christ qui lui parle. Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. Et maintenant envoie des hommes à Jaffa, et appelle un Simon, et ainsi de suite. Il loge chez un Simon, un tanneur, dont la maison est au bord de la mer. Il te dira ce que tu dois faire. Et quand l'ange, cet ange est bien évidemment Christ, en se référant au verset 4, c'est-à-dire l'ange du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous devez lire attentivement et je pense que nous en avons parlé, il y a quelques mois. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti, il appela deux serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement. Et lorsqu'il leur eut déclaré toutes ces choses, il les envoya à Jaffa. Lorsque vous descendez au verset 13, dans ce passage, vous avez la vision dans laquelle l'ordre suivant est donné à Pierre. Lève-toi, Pierre. Tue et mange. Et c'est un certain vase descendant à lui, semblable à une grande nappe liée aux quatre coins, et qui s'abaissait vers la terre. Et Pierre répondit, non pas, Seigneur. Car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou souillée. Puis, au verset 28, vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation. Mais Dieu m'a montré, c'était la leçon à retenir de cette vision, mais Dieu m'a montré que je ne devais appeler aucun homme ordinaire ou souillé. Il y avait ici un Italien et les Juifs ne faisaient que créer des histoires aux gentils. Il faut se rappeler un Thessalonicien 2. Ils aimaient, ce qui a été désigné par l'expression « remplir toujours plus la mesure de leur péché » en ce qui concerne les gentils. Les Juifs les persécutaient pour ceci, ils les persécutaient pour cela et bien d'autres oppositions. Ils les accusaient et les attaquaient à cause de toutes des méconnaissances des gentils relativement à une loi dont ils n'en connaissent d'ailleurs rien. Mais les Juifs aimaient simplement leur parler comme un enfant. C'est donc un point intéressant. Tout à coup, Pierre, converti depuis un certain temps, vient d'apprendre qu'il ne devrait appeler aucun homme ordinaire ou souillé. Vous savez, par exemple, que, si un juif frôlait un gentil, il déchirait littéralement son vêtement. Ainsi, cela pouvait coûter cher si vous ne faites pas attention lorsque vous marchez. Par conséquent, je suis venu vers vous sans objection, dès que vous m'avez envoyé chercher. Je demande donc dans quelle intention vous m'avez envoyé chercher ? Pierre était en train de parler à Corneille, et Corneille dit, « Il y a 4 jours je jeûnais jusqu'à 7 heures, et à la 9e heure je priais dans ma maison, et, voici, un homme se tint devant moi dans une tenue éclatante. » Ce verset vous en dit un peu plus sur la façon dont Christ pourra apparaître, dans une tenue éclatante, mais il ressemblait à un homme. Mais Corneille l'a appelé Seigneur et il était l'ange du Seigneur. C'était donc Christ. Il s'agit là d'une autre petite note intéressante sur la façon dont Christ pourrait avoir l'air, un jour, lorsqu'il sera le messager de l'Alliance, pendant 3 ans et demi et au moment où nous le verrons sortir d'un nuage. Corneille, ta prière est entendue, et tes aumônes sont venues en mémoire à la vue de Dieu. C'est une formulation légèrement différente. Mais je trouve simplement fascinant que Dieu répète 2 fois, avec des mots légèrement différents, le fait que Dieu a entendu tes prières et s'est souvenu de tes aumônes. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu, verset 4 et 31. Et cet ange dit, en fait, Christ dit, Corneille, ta prière est entendue, et tes aumônes sont venues en mémoire à la vue de Dieu. Ainsi, chaque petite chose que vous faites est d'une telle manière qu'elle est accomplie devant Dieu. Il s'en souviendra. Si vous donnez un verre d'eau à quelqu'un, vous en obtiendrez une récompense. Allons, à présent, dans Luc 12, nous allons y remarquer quelque chose sur lequel nous n'avons jamais insisté, chaque fois que nous avons lu sur ce sujet. Et j'ai lu tellement de fois ce passage sans m'y pencher en profondeur que je n'ai pas assez de doigts sur les mains et d'orteils sur les pieds pour compter. Et c'est probablement votre cas aussi. Je m'excuse, parce que je vais le corriger aujourd'hui. C'est une déclaration fascinante. Je me suis souvent demandé, en étudiant Luc 12, s'il semble y avoir une courte liste d'individus qui seront bénis, s'ils mettent en pratique cette courte liste de choses à accomplir. Car rappelez-vous, ce passage se termine par la veille, dans les versets 37 et 38. Elle s'ouvre dans le verset 32 comme suit, « N'aie pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume de Dieu. » C'est ce qu'on a appelé le royaume de Dieu dans le verset 31. C'est ainsi que j'ai souvent insisté sur le fait de vendre ce que vous avez, mais remarquez ce qui est écrit et donnez l'aumône. Je suis passé rapidement sur cette partie à maintes reprises. Procurez-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor dans les cieux qui ne fait jamais défaut, où aucun voleur n'approche, et où la mine ne détériore rien non plus. Car là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Il est important de noter à présent que votre aumône peut être votre temps, elle peut être vos paroles, elle pourrait être également une aide, c'est-à-dire une assistance que vous apportez à une autre personne. Il ne suffit donc pas de vendre tout ce que vous avez, pas plus que le verset 35, que vos reins soient sains, ne veut pas dire que vous devez mettre des vêtements lorsque vous sortez. Cela veut dire qu'il faut marcher dans la vérité. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Que vos reins soient sains par la vérité, tout comme dans Éphésiens 6, concernant l'armure de l'évangile, et vos lampes allumées. C'est une liste très courte de quatre choses et vous vous y échapperez et vous serez sauvés. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de la septième tête, si ce n'est d'aider les autres à traverser cette période. Parce que c'est à ce moment-là que nous nourrissons le troupeau destiné à la boucherie. Il y a par conséquent quatre choses sur cette liste. Elles présupposent la foi, l'espérance, l'amour et la vérité. Si vous mettez en pratique ces quatre choses, vous vous y échapperez. En l'occurrence la foi, l'espérance, l'amour et la vérité. Nous allons étudier ces quatre éléments. Tout d'abord, la foi, vendez tout ce que vous avez. Il vous faut de la foi pour le faire. Oui, c'est un acte d'obéissance, je sais, mais il faut de la foi pour vendre tout ce que vous avez. Permettez-moi de faire un commentaire à ce sujet, parce que je veux dès maintenant le séparer de l'aumône. La chose la plus insensée que les gens peuvent faire, c'est de conserver leurs biens. Ces personnes pourraient aider beaucoup d'autres personnes. Soit dit en passant, c'est un peu comme si on faisait des aumônes géantes. Mais elles ne voudront pas abandonner leurs biens. Et j'ai réfléchi au fait que, d'une manière ou d'une autre, elles seront obligées d'abandonner leurs biens. Réfléchissez-y tout simplement. Si ces personnes n'abandonnent pas leurs biens avant le retour de Christ, elles devront le faire immédiatement si tant est qu'elles veuillent revenir dans l'Église, mais un fait important encore, c'est qu'elles n'y échapperont pas, même à l'heure actuelle. Ces personnes seront dans la catégorie de tous les individus qui possèdent des terres et des vaches et ainsi de suite. Elles devront les abandonner immédiatement, là où elles seront, faute de quoi, elles ne pourront même pas être dans l'Église. Et s'ils ne le font pas, dans ce cas-là, ces gens perdront ce qu'ils possèdent de toute façon. Ils perdront ainsi toute leur possession d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, lorsque Christ reviendra, tous vos biens seront perdus. Ils seront rejetés du royaume. Ils seront chassés du royaume de Dieu. Et vous ne pourrez pas emporter votre terre, vos vaches et vos biens. Ces biens disparaîtront parce que vous serez pieds et poings liés hors du royaume. Vous attendrez ainsi 5 ans avant ce moment terrible de jugement et d'une indignation ardente qui dévorera les adversaires. Par conséquent, la première chose qui est mentionnée ici, c'est la vente de ce que vous avez. C'est un test de foi. Soit, vous faites confiance à Dieu, soit vous ne lui faites pas confiance. Nous arrivons ensuite à l'expression « donner l'aumône ». Et donner l'aumône, c'est un acte séparé. Ainsi, le fait de vendre ce que vous avez et le fait de donner l'aumône ne sont pas pareils. Notons cependant que les aumônes peuvent être pécuniaires, je le comprends, mais nous venons d'en parler. C'est l'amour, la compassion, la miséricorde. Finalement, cette courte liste de choses à faire, pour les personnes qui souhaitent s'y échapper, semble complète. Parce que ces choses définissent l'attitude des gens. Dieu se souvient de chaque aumône. Ce faisant, nous manifestons l'amour. La question est de savoir maintenant pourquoi vous gardez vos lampes allumées. Pourquoi faites-vous cela? Vous le faites tout au long de votre vie. Nos lumières ou lampes doivent toujours être allumées. C'est parce que nous espérons le salut. C'est pour cette raison que nos lampes restent allumées. Vos yeux sont fixés sur le salut. C'est comme si on disait en réalité, et n'oubliez pas l'espérance, car vous savez ce qui se passera à la fin de cette lampe qui reste allumée, par conséquent, vous attendez et vous veillez. C'est la définition par excellence d'une attitude pleine d'espérance. Et que vos reins soient sains, c'est-à-dire que vous marchez dans la vérité. Il ne s'agit donc pas d'une déclaration incomplète sur l'obtention du royaume par rapport à celui qui ne l'obtiendra pas. D'autres personnes cependant pourront l'obtenir plus tard. Elles devront peut-être apprendre à faire l'aumône plus tard. Ceux qui seront dans la catégorie des chèvres ne feront jamais l'aumône. Ceux qui seront symbolisés par les moutons donneront l'aumône. Les chèvres n'auront jamais aidé personne. Il suffit pour cela d'étudier les choses que Christ a dites qu'il aimait au sujet des moutons. Ils ont donné des vêtements, pas de l'or et de l'argent. Ils ont donné aux autres quelque chose à manger. Ils leur ont donné à boire. Ils ont rendu visite à des personnes en prison. Soit dit en passant, il y aura beaucoup de monde en prison au cours de la septième tête. Ils leur ont rendu visite lorsqu'ils étaient malades. Je pense qu'il y a environ 6 catégories de choses qu'ils ont faites. Il n'y a rien à propos d'un chèque que vous remplissez. Je ne dis pas pour autant qu'il n'y aurait pas un moment où vous auriez à remplir un chèque. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais Christ est uniquement défini, à la fin de ce feu très difficile, lequel ne durera pas simplement 1 an et demi, mais, à certains égards, ce sera 5 années de travail avec cette génération scolio et diastrophe, c'est-à-dire une génération désordonnée, remplie de haine et de perversion, comme nous en parlions, il y a quelque temps. C'est donc très simple, je dois voir si vous comptez sur moi. Vendez tout ce que vous avez. Je dois également voir si vous aimez les gens. Dans ce cas-là, donnez l'aumône. Et chaque fois que vous le faites, rappelez-vous que Dieu s'est souvenu des aumônes de Corneille et il n'était même pas encore converti. Réfléchissez à cet exemple. Dieu s'est souvenu de ses prières et il a même été par la suite converti, et la Bible mentionne à 2 reprises le fait que ses prières et ses aumônes soient montées comme un mémorial devant Dieu, dans un intervalle de 27 versets, pour que nous ne manquions jamais l'essentiel. C'est une déclaration extraordinaire. Qui sait tout ce qu'il faisait? Il a donné de lui-même. Il est inutile d'insister sur le fait que tous ceux qui donnent recevront en retour. J'ai souvent répété que vous ne pouvez pas parler de vos plus grandes bénédictions. Vous ne pouvez parler que du moindre degré de bénédiction que vous recevez. Ce sont les occasions durant lesquelles vous avez reçu quelque chose. Parce que vous êtes censé donner votre aumône en secret, vous savez qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cela signifie que c'est une bénédiction de recevoir. Si quelqu'un vous donne quelque chose dont vous avez besoin, par exemple, un verre d'eau ou si celui-ci vous apporte une guérison, oh, c'est une bénédiction, mais il y a en fait plus de bonheur à le faire pour eux et vous ne pouvez pas parler de vos plus grandes bénédictions, celles que vous avez données, non pas celles que vous avez reçues. Réfléchissez-y. Vous ne pouvez littéralement pas en parler. Vous devez les garder secret. Les gens en parleront, ça se saura. La personne que vous avez aidée pourrait en parler, mais, selon Proverbe 27 et le verset 2, laisse un autre homme te louer, et non ta propre bouche, un étranger, et non tes propres lèvres. Et ils en parleront. L'individu qui avait été guéri est allé danser dans le temple et disait ceci, « Regardez ce qui m'est arrivé. » Pierre et Jean n'avaient pas à dire qu'ils avaient fait quelque chose. Et ensuite, comme les gens étaient émerveillés de cette guérison et qu'ils les regardaient si intensément, Pierre a dû leur parler. Et Dieu s'en souvient à chaque fois. La foi, l'espérance, l'amour et la vérité vous offriront les moyens de vous y échapper. Et nous voilà de retour dans la prophétie, mais pas dans la même perspective. Cela dit, les 2 actes qui consistent à vendre tout et à donner l'aumône symbolisent un trésor que l'on entrepose dans les cieux, lequel ne fera jamais défaut. C'est ce qui est écrit. La Bible dit en réalité que les 2 actes symbolisent un trésor que l'on emmagasine dans les cieux. Et ces actions mettront vos cœurs au ciel, et lorsque vos cœurs seront au ciel, vous récupérez votre Bible et vous l'étudierez différemment. Ce sera le prochain fruit pour avoir mis en pratique les choses précédentes. C'est parce que Dieu sait qu'il existe une sorte de loi spirituelle invisible. Ainsi, lorsque vous faites ces 2 choses, vous donnez votre temps, votre amour, votre gentillesse à tous vos fonds. Et la plus grande libéralité en ce qui concerne l'aumône, en un sens, c'est de tout vendre, car nous pourrons alors obtenir en retour beaucoup plus de chrétiens, si Dieu les appelle. Nous sommes limités, d'une certaine manière, sans ces moyens. Nous sommes vraiment sur le point d'atteindre une croissance extraordinaire, si nous avons encore du temps. Et l'une des choses que nous pouvons faire, c'est d'ajouter plus de frères et sœurs, mais nous pouvons aussi en ajouter plus de millions, et il y a des centaines de millions de personnes qui nous connaissent aujourd'hui, mais nous pouvons ajouter plus de gens qui viendront au mariage, vous comprenez les versets de Luc et de Matthieu, un plus grand nombre de millions de personnes qui, d'abord, deviennent des admirateurs et, finalement, Elles deviennent des saints et reçoivent vie éternelle à cause des biens en commun. Je ne sais pas comment vous pourriez aider les pauvres plus que cela, hormis le fait que vous avez plu à Dieu et que vous avez exercé votre foi. Mais alors, il y a simplement une espérance constante. Vous attendez et vous attendez et vous attendez. Vous n'abandonnez jamais. Vous ne perdez jamais espoir. C'est pourquoi, écoutez, je veux que le royaume vienne, encore plus maintenant que je ne l'ai jamais souhaité de ma vie, et je veux dire encore plus rapidement. Bien plus, parce que je comprends tellement plus, et c'est tellement plus dur de vivre dans ce monde. Ainsi, lorsque vous mettez ces deux choses ensemble, chaque jour, c'est tout simplement, RRGGGHHH, je me sens comme Lot, torturé, c'est-à-dire que je suis vexé et épuisé. Le mot « vexé » est mentionné deux fois. Vous connaissez ces deux mots grecs différents. L'un signifie simplement que vous êtes épuisé et l'autre signifie être torturé, en ce sens que ça dure. Je veux l'arrivée du royaume à tel point que je pourrais cracher du sang et des ongles. Mais s'il n'est pas encore là, je ferai un bon usage de mon temps et ferai tout ce que je peux. Et je resterai plein d'espérance. J'attendrai, je veillerai, j'observerai ici et là et je me poserai la question de savoir, quelle autre personne puis-je servir aujourd'hui? Si vous voulez ajouter un cinquième point, vous pouvez en ajouter un de plus. Vous pouvez noter Hébreux 10 et le verset 36. Il y est dit qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous avez besoin de patience. Ainsi, si vous savez que vous avez fait toutes ces choses, Hébreux 10 et les versets 36 à 37. Après avoir fait tout ce que vous étiez censé faire et si vous ne voyez pas encore Christ, eh bien, je suppose que vous pouvez ajouter une cinquième chose à la liste. Mais, pour ce faire, vous devez quitter la description de Luc 12, aller au même endroit où il est question d'attendre Christ, dans ce passage, et après avoir fait la volonté de Dieu, car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse que nous attendons tous. J'espère donc que ces choses vous inciteront à réfléchir aux raisons pour lesquelles cela peut être si simple, dans Luc 12, d'être sauvé. Il y a de la simplicité en Christ. L'une des grandes joies que je n'ai jamais eues dans ma vie a été de voir toute cette image de la prophétie devenir plus simple. C'est désormais plus simple. Ce que je vous ai enseigné dans cette image d'ensemble est juste, je le dis devant Dieu. C'est ce qui s'annonce et c'est pour bientôt. Mais un autre moyen simple de s'y échapper est d'aider les autres. Il nous faut donc y réfléchir. Il est encore temps de tout vendre, d'améliorer le nombre d'aumônes que vous donnez, d'espérer et de vous assurer de marcher dans la vérité. Il nous reste encore du temps. Par conséquent, soit que vous ayez besoin de plus de foi ou plus d'amour ou plus d'espérance ou plus de compréhension de la vérité, dans tous les cas, assurez-vous que vous êtes dans la bonne focalisation. Il est intéressant, pour en revenir au sujet de l'amour, comme j'ai commencé par le dire. L'aumône est clairement une forme d'amour. Je veux dire par cela que c'est le plus beau don. Vous ne pouvez même pas, et je me demandais souvent, en lisant Luc 12, s'il n'y avait rien à propos de l'amour. Oh oui, il y en a. C'est la plus grande forme de l'amour. C'est quoi que vous fassiez réellement pour aider les autres, par opposition au passage dans Jacques, un passage dans lequel si un frère ou une sœur sont nus, et manquent de nourriture quotidienne, mais vous leur dites, allez en paix, soyez au chaud et soyez rassasiés, je vous souhaite le meilleur, et vous fermez votre porte. Nous sommes une église, en toute honnêteté, qui manifeste assez bien l'amour, selon le point de vue du vieux pasteur ici. Je vous le dirais si vous ne le faisiez pas. Vous me connaissez. Mais il est assez évident que je ne vois pas toutes choses. Et je ne connais pas aussi tout le monde. Mais je dirais certainement qu'en tant que groupe, nous nous en sortons plutôt bien. Cela signifie donc que vous connaissez tous quelqu'un qui est un bon exemple. Choisissez donc cette personne et dans votre esprit, copiez-la. Je veux être plus comme celui-ci, ou comme celui-là, ou je veux copier cette attitude-ci, ou cette attitude-là, voyez-vous? Et vous copiez ces façons de faire? Nous avons plein d'exemples intéressants. Je les ai vus et je les connais, et ils sont ici depuis 20 ans. Techniquement, On pourrait dire que c'était notre 20e anniversaire de toute façon, mais nous nous sommes constitués en tant qu'organisation le 3 mai, donc c'était hier. Mais comme je l'ai dit, je crois comprendre que vous êtes plus ici pour célébrer notre anniversaire de toute façon. Dans Matthieu 5, les versets 43 à 48, on trouve l'un des 116 versets du Nouveau Testament où l'amour de Dieu, c'est-à-dire agapé, est mentionné. Et si vous lisez ces versets, je vais en faire sauter celui-là. Je vais en citer quelques-uns, puis en lire quelques-uns, et je vais terminer une minute plus tôt. Par principe, je terminerai une minute plus tôt parce que j'ai entendu une rumeur que je vous dois. J'aurais pu accumuler une minute supplémentaire au total grâce à ces sermons. Mais je reviens à des sermons normaux. Ma tribulation de 3 ans et demi est terminée. D'accord, et sans doute le vôtre aussi, n'est-ce pas? C'était des messages plus longs. Je vais donc terminer une minute plus tôt. Je ne lirai peut-être pas tous les versets, mais c'est très bien. Il est sans doute mieux d'écouter. Écrivez plutôt les versets, mais les écouter serait plus profitable, car je peux aller plus vite. Nous pouvons en explorer plus. Matthieu 5 et les versets 43 à 48 soulignent à quel point l'amour est lié à la perfection. Paul a écrit d'ailleurs que c'est le lien de la perfection. Matthieu 19 et les versets 16 à 24. Tu aimeras ton voisin comme toi-même, car aucun homme n'a encore haï sa propre chair. Le fait d'aimer son prochain comme soi-même est lié à l'entrée dans la vie éternelle. Lisez l'ensemble de ces versets. C'est l'histoire de l'homme riche. Les deux plus grands commandements, Matthieu 22 et les versets 34 à 40, parlent de l'amour de Dieu et de l'amour de votre prochain. Ceux-ci sont en réalité plus faciles à faire que les suivants. Luc 6 et les versets 31 à 36, aimez vos ennemis. Oh, comme c'est dur. J'ai pris une décision il y a longtemps, car je venais de me retrouver en colère contre des gens qui agissaient comme des ennemis. Et je devais y faire face. Je devais trouver un moyen de régler le problème. Et j'ai pris une décision. Je suis en quelque sorte entré dans une alliance avec moi-même. C'était il y a environ 40 ans, il y a longtemps. Mais les premières années de mon ministère ont été difficiles. Je pense que Dieu a dû me soumettre à une épreuve plus difficile à cause de la responsabilité qui allait, dans le futur, être la mienne. Mais les ennemis avec lesquels j'ai traité, j'avais conclu que je pouvais apprendre de mes ennemis. J'ai donc accepté le fait que si j'avais un ennemi, j'apprendrais quelque chose de lui. Quelquefois, j'ai conclu que la seule chose que je pouvais apprendre de cet individu, c'est la façon de ne pas être comme lui. Mais vous pouvez toujours apprendre pourquoi vous ne faites jamais ce que cette personne fait. Ainsi, vous devez aimer vos ennemis. Luc 11 est une mise en garde. Dans les versets 42 et 43, les pharisiens étaient focalisés sur la dîme de la menthe, de la rue et de toutes sortes de plantes et négligeaient, par conséquent, l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'ils négligeaient les questions les plus importantes de la loi, à savoir le jugement, la miséricorde et la foi, et ainsi de suite. Je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Ils payaient la dîme de la menthe, de la rue, de l'anis, du cumin et de n'importe quelle petite plante dans leur jardin. Ils coupaient simplement les graminées fourragères avec les feuilles, mais négligeaient les grandes choses, les questions les plus importantes de la loi, le jugement, la miséricorde et la foi. La miséricorde étant un mot souvent utilisé pour signifier l'amour. Ainsi, lorsque vous faites preuve de miséricorde, Dieu dit que vous en obtiendrez en retour. Jean 3, les versets 16 à 19. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Christ. Il a prouvé son amour pour le monde en donnant Christ. Il a donné quelque chose. Mais il a dit, Christ, c'est ta décision. Ainsi Christ avait-il le pouvoir de donner sa vie ou de la reprendre et de dire, non. Je ne veux pas le faire. Et le verset 19 souligne que les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière, mais Dieu aime le monde. Dès lors, Dieu aime le monde au moment où les hommes ne l'aiment pas et ont préféré les ténèbres. Jean 10 et le verset 17. Le Père aime Christ, parce qu'il a donné sa vie pour nous, pour le monde. Dieu a donc aimé le monde et a donné son Fils, puis il dit qu'il aime Christ, parce qu'il a été disposé à s'y engager. Mettez ces deux versets ensemble. Il nous faut cependant noter quelques avertissements. Jean 12 et les versets 25-26. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie en ce monde la gardera jusqu'à la vie éternelle. Va où? Il vous faudra réfléchir sur ces versets. Celui qui aime sa vie en ce monde la gardera jusqu'à la vie éternelle. Je vais dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Il est normal de détester votre vie dans ce monde, aussi longtemps que vous aimez les autres. Mais la vie, en ce monde, est plus difficile que jamais. Vous ne marchez pas cependant comme des malheureux, parce que Dieu vous a laissé sa joie, il nous a laissé sa paix. Vous n'avez pas le droit d'être malheureux. Mais je ne sais pas comment vous pouvez vivre dans un monde si dégoûtant, si immoral, si pervers, un monde corrompu, un monde à caractère difficile, si méchant et tortueux, c'est le sens du mot grec scolio. Va où? C'est énorme comme définition. Je ne sais pas comment vous y arriveriez. Vous devez devenir un peu comme ça vous-même. Je ne déteste pas la vie. Cela ne veut pas dire détester la vie. Il s'agit plutôt de détester la vie dans ce monde. Et vous devez mettre le tout ensemble. Les pharisiens aimaient la louange des hommes plus que la louange de Dieu. Ils manifestaient bien de l'amour, mais c'était le mauvais genre d'amour, c'est-à-dire le fait d'aimer votre vie et de la perdre en retour. Ils avaient de l'amour, d'accord, mais c'était le mauvais type d'amour. Jean 13 et les versets 34 à 35. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, comme je vous aimais, par ceci tous les hommes sauront que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas à quel point vos réponses sont intelligentes, ni à quel point votre voiture ou votre maison est belle, ni que vos cheveux sont bien coiffés. Toutes ces choses sont importantes, je suppose, à leur façon. Mais les hommes doivent voir que vous aimez les autres. Et si vous m'aimez, Jean 14, il y a un peu de psychologie ici. Jean 14 et les versets 15 à 21, jusqu'au verset 31, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, a dit Christ. J'ai eu le père le plus drôle qui ait jamais existé et pourtant il pouvait être aussi sérieux que tout ce que vous aurez déjà vu. Je me souviens, et je pense vous avoir raconté cette histoire. J'ai reçu un appel téléphonique, il y a 41 ans et mon père m'a demandé d'expliquer, de classifier et d'expliciter tous les versets difficiles de la Bible. J'en étais presque évanoui. Et il était si drôle, je le dis, il venait juste de me le dire au téléphone. Je lui ai répondu, « Papa, as-tu une idée de la dureté que ce serait de faire un tel travail ?»« Oui, répliqua-t-il, mais je sais que tu m'aimes. » C'était tout simplement sa réponse, tel un acteur. Il dit encore, mais c'est bon si tu ne le fais pas. Je t'ai nourri, vêtu, tu sais, j'ai payé pour ton université et, je t'ai acheté de la nourriture, mais c'est bon. C'était, il y a un certain temps déjà. Il raisonna de cette façon, en rappelant des choses ici et là. D'accord, papa, d'accord, je vais le faire. Et sa réponse fit, je savais que tu le ferais. Il a utilisé la psychologie. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, seulement la version de mon père était, si tu m'aimes, je veux que toutes les écritures difficiles soient expliquées. Eh bien, vous savez quoi? C'est un livre aujourd'hui. J'ai toujours l'original avec toutes les coquilles typographiques, parce que je l'ai dactylographié moi-même, j'avais, à cette époque, une machine à écrire datant d'Abraham Lincoln et je l'ai dactylographié. Et c'est un trésor pour moi aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer ne pas le faire. Mais je veux dire que je ne me suis pas battu si dur contre l'idée de faire ce travail, mais je ne me suis pas non plus contenté de me retourner et de mettre mes pattes en l'air quand il me l'a demandé pour la première fois. C'était il y a 41 ans, et chaque fois que je vois ce livre, je pense à cette conversation téléphonique avec mon père. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il restait environ 2 semaines avant la fête des pères et il a dit, il a conclu en disant, « Oh, merci beaucoup. Ce serait tout simplement un merveilleux cadeau pour la fête des pères. » Je lui ai répondu, « Papa. J'ai dit que je le ferais, mais nous sommes seulement à 2 semaines de la fête des pères. Je le sais. » Répondit-il, « Je sais cependant que cet intervalle est peut-être trop juste. » Il poursuivit alors ses propos en disant, Il reste sans doute une semaine, mais je t'en donne deux. » Il avait toujours une réponse rapide. Il était tout simplement une personnalité drôle, très drôle. Ainsi, j'ai fait ce travail en 2 semaines et cela explique toutes les fautes de frappe. Mais de toute façon, je devais en ajouter plus tard et en faire un livre. Tout cela était donc bon. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Romains 8, à partir du verset 31 jusqu'à la fin. Bien entendu, le thème de l'amour commence par Romains 5 et les versets 5 à 8. L'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné, c'est là que tout commence. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas manifester l'amour de Dieu. Et l'amour est un fruit de cet Esprit, vous ne pouvez donc pas avoir l'amour de Dieu sans l'Esprit Saint. C'est impossible. Romains 12 et le verset 9 dit que l'amour soit sans dissimulation, ce qui signifie un amour non dissimulé, un amour sincère, sans hypocrisie. C'est donc un amour sans dissimulation, c'est-à-dire un amour qui n'est pas trompeur ou pas sincère. Ainsi, faites en sorte que l'amour soit sans dissimulation. Et ayez une bienveillante affection l'un envers l'autre avec un amour fraternel, dit le verset 10, et le verset suivant. Nous devons donc avoir l'amour de Dieu, de même que l'amour fraternel. Et bien entendu, Hébreux 13 et le verset indique que l'amour fraternel doit continuer si nous sommes dans l'état d'esprit de Philadelphie, nous voudrons agir de cette façon. Et j'en vois beaucoup. Je dois simplement le dire. Je souhaite que tous les frères et sœurs dans le monde puissent être dans des groupes plus importants, comme nous l'étions auparavant, là où les opportunités de communion étaient les plus grandes. Mais vous savez quoi, frères et sœurs, où que vous viviez dans le monde, il vous suffit d'être un peu plus ingénieux, c'est d'ailleurs une des lois du succès. Trouvez des moyens inventifs et créatifs d'aider les autres frères et sœurs dans les groupes les plus modestes, dans certains cas, d'autres groupes sont plus grands. Mais il faut trouver des moyens d'aider les gens. Ce pourrait être une carte que vous leur envoyez. C'est une aumône. Ce pourrait être un appel téléphonique, c'est une aumône. Ce pourrait être le fait de donner quelques fleurs. Ce sont des aumônes. Vos compétences créatives peuvent être sans fin. 1 Corinthiens 8 et les versets 1-3, l'amour édifie. Ainsi, si un homme aime Dieu, celui-là même est connu de lui. Pensez à l'aumône de Corneille avant même d'avoir reçu l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 16 et le verset 14, que toutes choses soient faites avec charité. 2 Corinthiens 6 et les versets 1 à 10, un passage qui décrit les ministres. Les ministres de Dieu doivent avoir un amour non sincère, un hypocrite qui veut dire sans hypocrisie. J'ai vu des gens avec un amour fin, un amour insincère. C'est comme de fausses nouvelles. C'est un amour simulé. C'est un peu comme des coups de trompette et ils laissent tomber quelque chose. Galates 5 et les versets 13 à 14. Par amour servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, à savoir dans ceci, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Si vous voulez prendre le temps de lire 1 Corinthiens 13, vous. Je veux dire que c'est une chose très inclusive, cette chose appelée l'amour. Mais vous pouvez voir pourquoi, si vous l'avez, vous savez que vous avez rencontré, pas seulement un quart de choses sur une courte liste, mais 4 éléments, à savoir la foi, l'espérance, l'amour et la vérité, mais aussi la patience, si vous voulez l'y ajouter. Vous avez rencontré, vous savez, les 3/4 de cette liste de 4 points, si vous avez de l'amour, ou peut-être que vous pouvez en dire la moitié ou quelque chose entre les deux. Éphésiens 5 et le verset 2, marchez dans l'amour, comme Christ aussi nous a aimés. Éphésiens 4 et les versets 15 à 16, l'amour de Dieu édifie et unifie le corps de Christ. Plus nous aurons d'amour, plus nous serons unifiés. Éphésiens 3 et le verset 19 dit que l'amour de Christ surpasse la connaissance. Cet amour est au-delà de ce que vous pouvez savoir. C'est un sentiment merveilleux qui surpasse presque tout ce que vous pouvez savoir, même si vous l'extériorisez, vous-même. En partie, parce que les effets que cette manifestation d'amour laisse dans la pensée de Dieu lorsqu'il vous donne une récompense ne nous sont pas connus. Nous savons simplement que c'est merveilleux et qu'il n'en oublie rien. 1 Pierre 4 et le verset 8, l'amour couvrira la multitude de péchés. De quel péché parle-t-on? Il est question des vôtres. Je ne connais aucun autre sujet dans la Bible où Dieu dit, vous faites ceci et cela effacera simplement une partie de vos péchés. Mais l'amour agit de cette façon, et il n'y a plus qu'un seul passage biblique qui le dit. Colossiens 3 et les versets 14 à 19. Et par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de perfection. La perfection implique l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance, l'humilité, la sagesse, et ainsi de suite. Mais l'élément qui les rattache les uns aux autres, c'est-à-dire le mortier qui maintient ensemble ces briques importantes de notre vie, c'est l'amour. 2 Pierre 1 et les versets 4 à 11, il faut avoir de l'amour pour entrer dans le royaume de Dieu. 1 Thessaloniciens 5 et le verset 8, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour. Revêtez cette cuirasse. Vendez tout et donnez l'aumône serait le bon endroit pour commencer. Et si vous n'avez pas pu faire cela pendant très longtemps, mais que vous avez fait les deux, vous êtes dans une bonne position, vous êtes prêt à y aller. Tout va bien. 2 Thessaloniciens 3 et le verset 5, et que le Seigneur dirige vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patiente attente de Christ. Ainsi, vous y voilà. Vous savez, puisse Dieu, dit-il aux Thessaloniciens, juste après avoir parlé de l'homme du péché, il leur dit, et que le Seigneur dirige vos cœurs à l'amour de Dieu et dans le frère ou la sœur juste à côté, et à la patiente attente de Christ. Que ce soit le précepte qui définit cette Église. Car Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens, selon 2 Timothée 1 et le verset 7. Hébreux 6 et le verset 10, permettez-moi de le répéter, car Dieu n'est pas inique pour oublier votre œuvre et le labeur d'amour. Il ne fera pas cela. Dieu considère qu'il est injuste d'oublier la plus petite chose que vous aurez faite. Deux derniers versets, 1 Pierre 1 et le verset 22. Voyant que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, en un amour non feint des frères, veillez à ce que vous vous aimiez l'un l'autre d'un cœur pur avec ferveur. Et puis, Jude 21 parle de se maintenir dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la vie éternelle. Il décrit ensuite comment utiliser cet amour pour éloigner les gens du feu. C'est parce que depuis 2000 ans, les frères et sœurs ont retiré d'autres frères du feu. Ce n'est pas quand le feu est là que vous feriez cela. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris ce fait, sinon, pourquoi le dit-on tout au long de la Bible, jusqu'à Jude? Cela fait 2000 ans que les gens lisent « arracher les gens hors du feu ». Eh bien, ce n'était pas encore arrivé, que voulez-vous dire? La réponse, c'est que votre conduite peut ramener d'autres frères et sœurs dans l'amour de Dieu et qu'ils ne traverseront pas ce feu. Ce verset existe depuis 2000 ans. Dieu ne s'attendait pas à ce que nous lisions sans aller en profondeur, en disant, « Eh bien, nous l'utiliserons un jour. » Mais maintenez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la vie éternelle. En conclusion, si nous avons le temps, voici nos plans pour l'avenir. Je veux vous donner un paragraphe, un seul paragraphe. Nous avons 12 éléments fondamentaux complets et en place dans cette grande œuvre de Dieu. Nous avons un campus qui est achevé. Nous allons toujours entretenir les jardins un peu plus. Nous avons une université et un camp d'été merveilleux. Des conférences. Des sites de fêtes. Nous avons un personnel solide, un solide ministère au siège et un fidèle ministère sur le terrain. Nous avons de loin les sites web religieux les plus puissants de la planète, et ce depuis des années. Nous avons la plus grande bibliothèque religieuse, la plus belle littérature que vous puissiez imaginer. Nous disposons de vastes outils, des hymnes au calendrier en passant par le magazine envoyé relatif au collège, et de tous les outils imaginables pour les enfants, la famille. La liste pourrait se poursuivre. Et nous avons la vérité. Et enfin, nous pouvons maintenant dire que nous avons et savons comment la prophétie se déroulera. Par conséquent, notre objectif, si nous avons un peu de temps, ou beaucoup, ou n'importe où entre les deux, serait de faire notre part en ajoutant plus de saints et en augmentant le nombre de millions de personnes qui assisteront au dîner de noces. Je suis tellement heureux de pouvoir aujourd'hui, avec toute cette étude derrière moi, faire plus d'émissions le World, tout comme, assister à plus de réunions sur la CAD, retoucher une partie de la littérature sur laquelle je veux travailler et faire certaines autres choses pendant au moins un peu de temps, et j'espère un peu de temps. Mais allons de l'avant et édifions l'amour de Dieu jusqu'à la perfection et accomplissons ce que Dieu dit à la fin de Matthieu 5. Fin du sermon.